Nous proposons de vous accompagner pour cette heure avec les pères du désert, ces moines ascètes qui vécurent surtout en Égypte et en Palestine du 3e au 15e siècle. Pères fondateurs de l'Église, richesse éblouissante que nous partageons avec nos frères orthodoxes. Ils développèrent la prière du cœur, l'invocation perpétuelle « Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi », ainsi que l'amour de la beauté éternelle, la philokalie et les moyens d'y parvenir, acquérir la paix intérieure, que l'on appelle l'hésychasme. L'échelle sainte de Jean Climac. Voici les différents principaux degrés qui conduisent l'homme jusqu'à Dieu. Il y a d'abord le renoncement, le détachement, l'exil volontaire, la pénitence, la pensée de la mort, l'affliction qui produit la joie, l'absence de colère et la douceur, la chasteté et la continence, la prière et la psalmodie, la veille corporelle, le discernement des pensées, des passions et des vertus, la sainte hésychasme du corps et de l'âme, c'est-à-dire la grande sérénité, la prière, sainte et bienheureuse mère des vertus, l'impassibilité, la charité, la foi et l'espérance. Aujourd'hui, de l'obéissance. J'ai vu là des hommes qui avaient passé près de 50 ans dans l'obéissance, et comme je les priais de m'apprendre quelle consolation ils avaient tirée d'un si rude labeur, les uns répondaient qu'étant parvenus au fond de l'abîme de l'humilité, par elle, ils repoussaient toutes les attaques, et d'autres disaient avoir obtenu une parfaite insensibilité et la libération de toute peine dans les injures et les outrages. J'en ai vu d'autres, parmi ces hommes dignes d'une éternelle mémoire, vieillards aux cheveux blancs et au visage angélique, qui étaient parvenus, par l'action de Dieu et la générosité de leur volonté, à une très profonde innocence et une très grande simplicité, mais non pas une simplicité déraisonnable et sans sagesse, comme celle des vieillards qui vivent dans le monde et qu'on appelle plaisamment des radoteurs. Tout au contraire, ils apparaissaient au dehors d'une extrême douceur, bienveillants, lumineux, n'ayant dans leurs paroles ou leurs comportements rien de fin, d'étudié ni de faux, chose qui se rencontre rarement. et au-dedans de leur âme, comme de petits enfants innocents, ils attendaient tout de leur supérieur, tandis qu'ils tenaient l'œil de leur esprit, fixé avec hardiesse sur les démons et les passions. Voici l'histoire d'Isidore. Un certain Isidore, jadis revêtu de la dignité d'archonte dans la ville d'Alexandrie, avait précédemment renoncé au monde dans le monastère cénobitique dont je viens de parler. C'est là que je le rencontrai. Après l'avoir reçu, ce très saint pasteur vit qu'il était fourbe, très dur, cruel et arrogant. Mais par son ingéniosité humaine, cet homme très sage parvint à vaincre les ruses des démons. Il dit donc à Isidore, « Si tu es fermement résolu à porter le joug du Christ, je veux que tu t'exerces surtout à l'obéissance. » Et il répondit, « Comme le fer au forgeron, ainsi je me livre moi-même à l'obéissance, très saint père. » Le supérieur, séduit par la comparaison, mit aussitôt à l'épreuve le frère Isidore et lui dit « En vérité, je veux, frère, que tu te tiennes à la porte du monastère et que tu te prosternes devant quiconque entrera ou sortira en disant « Prie pour moi, père, car je suis épileptique. » Il obéit comme les anges au Seigneur. Quand il eut fait cela pendant 7 ans et qu'il fut parvenu à une humilité et une componction très profondes, l'illustre supérieur voulut qu'après ces 7 ans d'épreuves régulières, et compte tenu de la patience incomparable de cet homme, il fût reçu au nombre des frères, ce dont il était pleinement digne et honoré du sacerdoce. Mais Isidore, par l'intermédiaire d'autres personnes et de moi-même, tout misérable que je suis, fit instamment supplier le pasteur de lui permettre d'achever sa course en ce même lieu et de la même manière, laissant ainsi entendre, d'une manière énigmatique et obscure, que sa fin approchait et qu'il serait bientôt rappelé. Et c'est ce qui arriva. Son maître, l'ayant laissé comme il était, 10 jours plus tard, il émigrait glorieusement de son abjection vers le Seigneur. Et 7 jours après qu'il se fut endormi, il attira à lui le portier du monastère, auquel ce bienheureux avait dit auparavant, « Si j'obtiens quelque crédit auprès du Seigneur, tu me seras bientôt inséparablement uni là-bas. » Il en advint ainsi, pour que soit pleinement confirmée son obéissance, non déshonorante, et son humilité imitatrice de Dieu. Voici maintenant l'histoire de Laurent. Un jour que nous étions assis au réfectoire, ce grand supérieur se pencha vers moi, approcha sa sainte bouche de mon oreille et me dit « Veux-tu que je te montre une sagesse toute divine dans une extrême vieillesse ?» Et comme je l'en priais instamment, il appela de la deuxième table un nommé Laurent, qui avait passé 48 ans environ au monastère, et qui était le second prêtre du monastère. Il vint donc, fléchit les genoux devant l'égoumène, et reçut sa bénédiction. Mais quand il se releva, le supérieur ne lui dit pas un seul mot, et le laissa debout, devant la table, et sans manger. C'était le début du repas. Il demeura ainsi une grande heure, ou même deux. Je n'osais même pas regarder le visage de ce travailleur spirituel, car il était tout blanc de vieillesse et avait 80 ans. Il resta ainsi, sans obtenir de réponse, jusqu'à la fin du repas. Puis, quand nous nous levâmes de table, le bienheureux l'envoya au grand Isidore, dont nous avons déjà parlé, pour lui réciter le début du psaume 39. Et comme j'étais très malicieux, je ne manquais pas de mettre à l'épreuve le vieillard. Je lui demandai donc à quoi il pensait tandis qu'il se tenait au réfectoire. « Je regardais, dit-il, mon pasteur, comme l'icône du Christ. C'est pourquoi je ne pensais pas avoir reçu un ordre de lui, mais de Dieu. Aussi, Père Jean, je me tenais là, non pas comme devant la table des hommes, mais comme devant le Saint-Autel, et je priais Dieu. » Je n'ai conçu aucune mauvaise pensée contre mon pasteur, à cause de la confiance et de l'amour que j'éprouve envers lui. Il est écrit en effet, « L'amour ne pense pas le mal. » En outre, Père, sache bien ceci. Si quelqu'un se livre lui-même volontairement à la simplicité et à l'innocence, il ne donne plus ni temps ni lieu au malin pour l'attaquer. Histoire maintenant d'un économe. Tel qu'était en vérité ce juste, pasteur et sauveur des brebis spirituelles par la grâce de Dieu, tel était aussi l'économe que Dieu lui avait donné pour le monastère, tempérant comme nul autre, doux comme il en est bien peu. Le grand vieillard, pour l'utilité des autres, fit semblant de s'emporter contre lui, tandis qu'ils étaient à l'église, et sans motif, ordonna de le chasser. Le sachant innocent de ce dont le pasteur l'accusait, dès que nous fûmes seuls, Je plaidai la cause de l'économe auprès du supérieur, mais ce sage me répondit « Je le sais aussi, père. Mais s'il est déplorable et injuste d'arracher le pain de la bouche d'un enfant affamé, de même, celui qui est préposé à la conduite des âmes ferait tort et à lui-même et aux travailleurs spirituels s'il ne lui procurait pas à tout moment des couronnes dans toute la mesure où il le voit capable de le supporter par des injures, par le déshonneur, par le mépris et par les moqueries. Ne pas le faire entraînerait trois grandes injustices. En premier lieu, le supérieur lui-même se priverait de la récompense attachée à la correction d'autrui. En second lieu, alors qu'il pourrait être utile aux autres par l'exemple de la vertu d'un frère, il négligerait de le faire. En troisième lieu, et c'est le plus grave, souvent, ceux-là même qui paraissent les plus endurants, s'ils restent un certain temps sans être repris ni blâmés par leur supérieur, sous prétexte qu'ils sont vertueux, perdent la douceur et la patience qu'ils possédaient auparavant. En effet, une terre, même bonne, fertile et grasse, si elle n'est pas arrosée par l'eau des humiliations, peut retourner en friche et produira les épines de l'orgueil, de la malice et de la présomption. Le sachant, le grand apôtre avait dit à Timothée « Insiste, reprends, exhorte à temps et à contre-temps. » Un autre de ces hommes, digne d'une éternelle mémoire, qui avait pour moi beaucoup d'affection dans le Seigneur et me parlait très librement, me dit un jour avec bienveillance « Si tu as en toi, très sage, la force qui agissait en celui qui a dit dans le sentiment de son âme, je peux tout en celui qui me fortifie. Si l'Esprit-Saint est descendu sur toi, telle une rosée de pureté, comme jadis sur la Vierge, si la vertu du Très-Haut te couvre de l'ombre de la patience, alors, saint et rein, comme l'homme, le Christ Dieu, du linge de l'obéissance, lève-toi de la scène de l'Ézéchia, lave les pieds des frères avec un esprit brisé, ou plutôt, mets-toi sous les pieds de toute la communauté dans une pensée d'abaissement. Place à la porte de ton cœur des gardes sévères et vigilants. Maintiens ton esprit immobile dans un corps tiraillé. Pratique intérieurement l'Ézéchia dans des membres qui se meuvent et s'agite. Et ce qui est le plus paradoxal, garde une âme impavide dans le tumulte, jugule ta langue furieusement portée aux disputes. Lutte contre ce despote 70 fois par jour. Fixe ton esprit à ton âme comme au bois d'une croix, de telle manière qu'il puisse être frappé comme une enclume par les coups redoublés du marteau, moqué, injurié, bafoué, maltraité, sans en être le moins du monde écrasé ou brisé. Mais à travers tout cela, toujours paisible et immobile. Dépouille-toi de ta volonté comme d'un vêtement d'ignominie et entre nu sur le terrain d'entraînement, ce qui ne se rencontre que rarement et difficilement. Revêt-toi de la cuirasse, de la confiance envers celui qui préside à ton combat, et ne la laisse ni briser ni entamer par aucun doute. Réprime par le frein de la tempérance l'ardeur impudente du toucher. Jugule par la méditation de la mort tes yeux qui, à toute heure, recherchent curieusement la grandeur et la beauté des corps. Bâillonne par le souci de toi-même ton esprit, trop occupé de ce qui ne le concerne pas, et enclin, malgré sa propre négligence, à condamner ton frère. Et cela, en manifestant effectivement toute la charité et la compassion possible à ton prochain. J'avais vu l'un des frères se tenir pendant la psalmodie avec plus de sentiment du cœur que les autres, surtout au commencement des hymnes. Par son attitude et son expression, il semblait s'entretenir avec quelqu'un. Je demandai à ce bienheureux ce que signifiait cette attitude qui lui était coutumière. Et sachant que cela pouvait m'être utile, il ne voulut pas me le cacher et me dit « J'ai l'habitude, Père Jean, tout au début de l'office, de rassembler mes pensées, mon intellect et mon âme. Et je les convoque et je leur crie, « Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. » Il est nécessaire que la mer s'agite, se soulève et se déchaîne pour rejeter sur le rivage tout le bois, les déchets et les débris végétaux qui y ont déversé les fleuves des passions. Soyons observateurs et nous constaterons qu'après la tempête sur la mer, il se fait un grand calme. Mon fils, tu n'auras pas à peiner de longues années pour trouver en toi le bienheureux repos. Si dès le début, tu t'abandonnes toi-même, de toute ton âme, aux humiliations. Bois volontiers le mépris comme une eau vivifiante, quand il t'est présenté par n'importe quel homme qui cherche à te faire boire le purgatif qui débarrasse de la luxure. Alors se lèvera dans ton âme l'aurore d'une profonde pureté et la lumière de Dieu ne s'obscurcira plus dans ton cœur. Un peu de feu amollit beaucoup de cire et souvent aussi une légère humiliation qui nous arrive amollit, adoucit, efface soudainement toute la rudesse, toute l'insensibilité, toute la dureté de notre cœur. Combat sans cesse avec ton intelligence, et chaque fois qu'elle vagabonde, rassemble-la en toi-même. Car Dieu ne demande pas à ceux qui vivent dans l'obéissance une prière sans distraction. Ne perds pas courage si tu es volé par les distractions, mais tiens bon et rappelle sans cesse ton intelligence. Car l'ange seul est à l'abri des distractions. Celui qui a résolu en son cœur de ne jamais abandonner la lutte jusqu'à son dernier soupir et d'endurer plutôt 1000 morts du corps et de l'âme ne tombera aisément dans aucun de ses défauts. Car l'inconstance du cœur et l'infidélité au lieu où l'on réside sont toujours cause de chute et de malheur. Ceux qui changent facilement de lieu seront complètement disqualifiés, car rien n'est cause de stérilité comme le manque d'endurance. Comme les arbres secoués par les vents enfoncent de profondes racines dans le sol, ainsi, ceux qui vivent dans l'obéissance acquièrent des âmes fortes et inébranlables.